On avait cité ce passage-là à plusieurs reprises, le fameux passage d'Éphésiens 3:20. Je vous le cite à nouveau. « À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. » Et la semaine passée, j'avais cité ce passage dans Hébreux 11, verset 6. « Il faut que celui qui s'approche de Dieu ou qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Et c'est vraiment une invitation. Tu veux t'approcher de Dieu? Réalise de quel Dieu tu t'approches. Tu t'approches d'un Dieu qui aime récompenser, d'un Dieu qui aime bénir, d'un Dieu qui désire te voir t'épanouir, te voir grandir, d'un Dieu qui veut renverser les impossibilités. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, réalise que c'est devant ce Dieu-là que tu t'approches. Donc, Dieu désire nous récompenser infiniment plus que ce qu'on peut demander ou penser. Malheureusement, nous aimons bien ce qui est clair et prévisible. Ça nous rassure, ça nous demande moins d'efforts. Cette série-là, mon but, est de vraiment qu'on puisse aller et exercer notre foi. Face à la foi, là, il y a deux approches que j'entends dans le monde. Il y a « mets pas trop les attentes trop hautes de peur que les gens soient déçus ». Et il y a l'autre que je vois dans la parole « ayez foi et tu ne seras pas déçu ». Donc, vous avez le choix d'écouter la voix que vous voulez, mais à quelque part, la parole nous invite constamment à exercer notre foi en Dieu. Est-ce que notre foi soit active? Et justement, cette semaine, je lisais quelque chose de vraiment, dans le cœur de ma lecture régulière de la parole, quelque chose m'a frappé, c'est dans Marc chapitre 7, verset 29, je crois, l'histoire de la femme syrophénicienne. Et ça m'a frappé cette semaine. Jésus lui dit, écoute, c'est pas bien de donner le pain des enfants aux petits chiens. Je suis venu pour le peuple d'Israël. Et la femme le regarde, elle dit, oui, mais les petits chiens mangent les miettes des enfants qui tombent sous la table. Ce qu'elle est en train de lui dire, c'est, Seigneur, c'est pas ça qui va m'empêcher d'avoir ma bénédiction. C'est pas le fait de sentir que cette bénédiction est restreinte. Non, moi, je crois à cette bénédiction-là et je vais aller la saisir. C'est à peu près ce qu'elle voulait dire. Et vous savez ce que Jésus lui a répondu? Bien, à cause de cette parole, cette femme-là a voyagé une journée, deux jours, trois jours, de son pays, qui n'était pas Israël, pour venir en Israël rencontrer ce gars-là qui s'appelle Jésus. Parce qu'elle a entendu parler de lui. Et sa fille était possédée d'un démon, était malade, et elle avait besoin d'une délivrance, d'une guérison. Et lorsqu'elle est devant Jésus, Jésus lui dit, « OK, à cause de ta parole, tu peux retourner chez vous. » Le démon est sorti. Et Jésus ne fait rien d'autre. Et la femme ne va pas plus loin, elle s'en retourne chez elle. Et quand elle retourne chez elle, elle découvre que sa fille est complètement guérie, complètement libérée. On met beaucoup d'accent sur les déclarations, et les déclarations doivent provenir de la foi. Oui, les déclarations, quand ça ressemble à une croyance qui est souhaitée, c'est ce que je veux croire, très souvent, on commence avec une croyance souhaitée qu'on veut acquérir, qui devient une croyance acquise. Je sais, et non plus je désire croire cela. Oui, c'est important, mais on voit ici dans cette déclaration ou cette parole qu'elle prononce, ce qu'elle est en train de dire, c'est Jésus, je sais que j'ai droit à ma bénédiction. Jésus dit, OK, qu'il te soit fait selon ta foi, c'est à peu près ce que Jésus a dit, mais Jésus lui dit, à cause de cette parole-là, le démon est sorti. Oh, Jésus n'a pas pris autorité sur le démon. Donc, si on a cette foi pour savoir qu'on doit aller à Jésus, comme ce père qui dit, viens au secours de mon incrédulité, ou qu'on a une plus grande foi, on voit des plus grandes choses agir, d'une manière ou d'une autre, on doit exercer notre foi en Dieu. Et la foi, il faut l'avoir comme un bébé qui est en train d'apprendre à marcher. On est en train de l'exercer, cette foi. Et souvent, on est un peu incohérent dans notre manière d'exercer notre foi. Et on doit être responsable ou cohérent dans la manière d'exercer notre foi. C'est-à-dire, peut-être qu'on n'a jamais prié même, ou on n'ose pas prier pour un mal de tête, on n'ose pas prier pour un bras endolori, on n'ose pas prier pour une petite chose. Et lorsque quelque chose arrive, un cancer qui menace la vie de quelqu'un, là, on va prier, puis il ne se passe rien, puis on dit, Dieu, tu fais rien. Non, peut-être qu'on a demandé au petit enfant de chausser des patins, il avait un an, et on lui a demandé d'aller compter un but avec l'équipe du Canadien. Ça n'a juste pas de sens. Peut-être que cet enfant-là, d'un an, un jour, va être un joueur de hockey. Mais c'était peut-être au-delà. Et à quelque part, on se doit de comprendre cette foi, cette confiance qu'on place en Dieu, et on doit l'embrayer, on doit l'exercer là où on est. Tu dis, ma foi, je ne sais pas si elle est grosse comme un grain de synové. Parfait. Exerce ta foi qui semble plus petite qu'un grain de synové. Mais mets-la en action. Exerce-la, place-la envers Dieu. Et c'est ce que tu vas voir, ce qui va se passer. Malheureusement, on aime bien ce qui est prévisible, ce qui est clair, et quelquefois, on préfère pas avoir trop de foi au cas où on soit déçu. Ce matin, je veux parler de son amour. Son amour est infiniment plus généreux que ce qu'on est capable de comprendre. Et parler de son amour de la bonne manière, sans le diminuer, sans le déformer, ça demande vraiment un effort important. Parce que ça nous dépasse. Et on est toujours en danger d'estropier cet amour-là qui est inconditionnel. Savez-vous que l'être humain, on va aller un petit peu dans la psychologie. Quoi, pasteur, tu parles de psy? Oui. Saviez-vous que l'être humain, en psychologie, on dit que l'être humain souffre de paresse cognitive? Vous savez pas ça, hein? En psychologie sociale, on a inventé le terme « on est des avares, nous sommes des avares cognitifs ». Qu'est-ce que c'est que ça? Où c'est que tu t'en vas, Gaëtan? Premièrement, je vais prendre une gorgée d'eau. Donc, pour décrire notre tendance naturelle à conserver nos ressources cognitives, on a développé ce terme d'être avare cognitif. C'est-à-dire, tout comme un avare cherche à éviter de dépenser de l'argent, l'esprit humain cherche souvent à éviter de dépenser des efforts cognitifs. On est tous comme ça. Tu as beau me dire, Gaétan, ce matin, non, moi, je ne suis pas un paresseux cognitif, je suis désolé, tout être humain. Vous avez entendu parler, et des fois, j'oublie les mots, j'ai écrit un petit mot ici que je ne voulais pas oublier ce matin. Ah, algorithme. Vous avez entendu parler d'algorithmes qui nous permettent de calculer des tendances, ainsi de suite. On a un algorithme en nous qui nous permet d'évaluer comment économiser nos forces cognitives. C'est vrai. Le cerveau cherche des raccourcis. Donc, on a cette tendance-là. Donc, comme un avare qui cherche à économiser de l'argent, on cherche à économiser de l'énergie. Puis notre cerveau, en réalité, notre cerveau est limité dans sa capacité de prêter attention aux informations, de les traiter. Parce que le volume d'informations auquel on est quotidiennement exposé dépasse de loin la capacité de notre cerveau de les traiter. Donc, vous avez beau avoir l'impression que vous n'en savez pas assez avant de vous coucher, puis vous voulez encore faire le tour des réseaux sociaux pendant une heure ou deux, vous n'en saurez jamais assez. Votre cerveau ne pourra jamais traiter toutes les informations qui lui sont disponibles. Donc, pour faire face à ce déséquilibre, trop d'informations à traiter, notre cerveau a développé un algorithme et il prend des raccourcis. Donc, pour faire face à ce déséquilibre-là, premièrement, on devient des avares cognitifs. On choisit sélectivement ce à quoi nous prêterons attention. Vous savez, des fois, c'est monsieur qui n'entend pas son épouse parler, il entend ses amis, mais pas son épouse. Ça m'est arrivé. Est-ce que c'était la semaine passée? Derrière Isabelle qui me parle, on était plusieurs dans l'endroit du système de son, et j'étais debout, je regardais ici en avant, il n'y avait personne, mais j'étais parti. Je ne sais pas combien de fois, Isabelle m'a appelé, mais elle était juste à côté de moi, et c'est Carole devant moi qui a dit « Hey, on te parle! » Elle a dit « Ah, quoi? » Et mon cerveau était en train de faire ça. J'étais en train de réfléchir à la réunion. Je ne sais pas si j'étais en train de prier, de dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux réellement faire ce matin? » Mais j'étais juste décroché, puis pourtant, ça faisait juste 10 secondes que je venais de parler à quelqu'un, puis là, oups, j'étais parti. Donc, notre cerveau va avoir tendance à porter attention d'une manière sélective. Donc, ma manière de partir comme ça, distrait, c'est peut-être pour ça que quand je regarde les vidéos de la famille, il y a une voix qu'on entend souvent dans la vidéo, c'est Emmanuel qui était petit à l'époque, 3 ans, 4 ans. Et ce qu'on entend souvent, c'est « Papa, 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 papa », jusqu'à ce qu'il ait mon attention. Et Jacinthe pourrait confirmer, il y a des vidéos où j'entends Emmanuel qui, tant que je n'ai pas répondu à sa demande, il continue. Il sait qu'à un moment donné, il aura mon attention. Donc, premièrement, on prête attention d'une manière sélective. Ensuite, on prend des raccourcis mentaux. Et on le fait en catégorisant les choses. Et ensuite, on évite les situations qui nécessitent beaucoup de ressources cognitives. Donc, on a tendance à catégoriser les choses. Je vais vous expliquer un peu ce que ça veut dire parce qu'on a besoin de comprendre. Notre cerveau a tendance à catégoriser. Un exemple très simple, les chaises sur lesquelles vous êtes assis ici et assises ce matin. Vous ne vous êtes pas posé la question, est-ce que cette chaise-là est solide et à quoi sert cet objet? Votre cerveau l'a déjà placé dans la catégorie chaise, objet sur lequel on s'assoit qui est assez solide pour nous porter. Et en plus, qui est confortable depuis que l'Église a payé des nouvelles chaises. Ah! Votre cerveau a tout analysé ça, c'est un raccourci. Dès que votre cerveau voit quelque chose qui ressemble à une chaise, c'est catalogué. Mais il y a des effets pervers à ça. Et on a remarqué que même si tu connais deux ou trois personnes maximum d'une nationalité, d'une culture, d'un groupe quelconque, d'un métier, tu auras tendance à catégoriser, à dire, ah, les, ils sont tous comme... Ça devient un problème. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de conflits dans le corps de Christ. Parce qu'on catégorise les gens. Et très souvent, on connaît une personne d'un endroit. Ça peut être, ah, les Québécois sont ceci. Ça peut être, ah, les plombiers sont cela. De n'importe quelle sphère, on catégorise. Et très souvent, l'échantillonnage est vraiment petit. Le problème, tant que c'est avec les gens, on peut le supporter. Mais ça peut arriver avec Dieu, c'est ça le problème, en réalité. Donc, je vais juste vérifier d'être sûr de rien manquer. Donc, on a tendance à catégoriser tout, les gens, les choses, puis sans s'en rendre compte, on va catégoriser Dieu, on va le cataloguer. On va établir notre compréhension de Dieu sur les expériences qu'on a vécues avec lui, et on va souvent, malheureusement, tirer des conclusions qui sont incomplètes et qui vont nous pénaliser dans notre foi, dans notre compréhension de Dieu. Le cerveau a besoin que les choses soient claires. Et à quelque part, on doit résister à cette notion-là et accepter d'être confortable avec le mystère, avec ce qui est incomplet. Je me souviens quand je suis arrivé en Afrique, je venais du Québec et j'aimais la précision. Et lorsque je demandais à quelqu'un, à un événement quelconque, est-ce qu'il y avait beaucoup de monde? Ah, un peu beaucoup. Et pour moi, ce n'était pas précis, je voulais des chiffres. Ça veut dire quoi? 10, 20, 50, 100, 1000? Un peu beaucoup? Ah, pas trop. Mais après quelques années, j'ai compris ce que ça voulait dire. J'ai accepté l'idée qu'on va vivre dans l'imprécision. Mais ça, c'est un exemple. Ou même, lorsque j'étais à San Pedro, il y avait une piste qu'on appelait la piste de taille dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, une des pires pistes en Côte d'Ivoire. Et sur la carte Michelin, en réalité, c'est une belle route goudronnée, mais c'est juste sur la carte, c'est pas dans la réalité. Et on faisait un peu la même chose lorsqu'on arrivait au début de la piste, on se disait, on a besoin de se rendre jusqu'à quel endroit? Et souvent, c'était 100 km. 100 km sur la piste, tu arrivais le matin, si ça allait bien, tu allais arriver à destination le soir pour faire 100 km. Et on demandait à des gens sur la route, comment est la piste? Il y avait, oh, elle est très bonne, elle est un peu bonne, elle est assez bonne. Déjà, à partir d'un peu bonne, ça veut dire que ça prend un 4x4, ça prend des chaînes. Ça veut dire que tu as besoin de tes bottes parce que tu vas pousser souvent et ainsi de suite. Donc, il fallait savoir interpréter cette imprécision-là. Et avec Dieu, c'est le danger de limiter Dieu parce que notre cerveau aura toujours le réflexe de simplifier, de catégoriser, parce qu'on a un algorithme qui est fait comme ça. Et notre compréhension de Dieu, elle est basée sur la parole, oui. Mais on va, sans se rendre compte, on la base surtout sur notre expérience passée et notre manière de catégoriser. On tire des conclusions qui deviennent des vérités, qui deviennent notre théologie, qui ne vient pas de la parole, de notre expérience, de notre compréhension et de la conclusion qu'on en a tirée. On prie pour quelqu'un, une situation, il n'y a pas d'exaucement. Ah, la souveraineté de Dieu. Dieu ne voulait pas. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de catégoriser. On vient de donner une intention à Dieu. On l'a ramassé où? Dans l'interprétation qu'on a donnée. Et ça devient une théologie facilement. Parce que trop souvent, on a tendance à balayer beaucoup de choses sous le tapis de la souveraineté de Dieu. Ah, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et à quelque part, c'est complètement le contraire de la foi, de faire confiance dans son amour, dans sa bonté. Donc, notre premier problème, c'est la paresse cognitive. Mais ce n'est pas tout. Il y a un deuxième problème qui vient s'ajouter au premier, c'est le fait que notre cerveau a a une plasticité, ce qu'on appelle la plasticité du cerveau. Laissez-moi vous lire d'une manière plus scientifique. Les voies neuronales qu'on appelle. Les voies neuronales connectent différentes parties du système nerveux puis permettent d'envoyer un signal d'une région d'un système nerveux à un autre. Et ces voies neuronales, ces connexions-là qui partent du cerveau, le cerveau, lorsqu'on pense d'une manière répétée, lorsqu'on réagit d'une manière répétée, d'une certaine manière, lorsqu'on laisse une émotion quelconque venir dans une situation quelconque d'une manière répétée, le cerveau, étant un paresseux cognitif, va développer des autoroutes de communication. Ces voies neuronales vont s'établir, vont s'ancrer, et ça va devenir cette manière de penser, cette réaction à une situation, cette émotion qui vient, ça va devenir la normalité. Et on va trouver ça simplement normal. Ça va être facile de penser comme ça. Donc, quand on pense d'une manière, on réagit d'une manière à une situation, d'une manière répétée, les voies de communication dans le cerveau, ils se développent comme des autoroutes d'information. C'est comme ça que les spécialistes l'appellent. Puis cette manière de penser devient facile, automatique. Et ça devient difficile de penser autrement. Et c'est pour ça qu'on répète souvent des comportements qui dérangent, mais on ne les a pas encore réglés. Ils sont toujours là comme des automatismes, parce qu'à quelque part, dans notre cerveau, j'avais pensé à amener mes raquettes ce matin, mais j'ai eu pitié du stage. Parce que penser autrement devient difficile, mais Dieu nous invite à penser autrement. Dieu nous invite à renouveler nos pensées, même à ce niveau-là. Donc, en conclusion, vous dites encore où est-ce qu'il s'en va avec ça. En conclusion, on se fige dans une manière de penser, nos fameuses autoroutes cognitives, si je peux les appeler ainsi, qui devient facile, la normalité. Tu es distrait, c'est de cette manière-là que tu penses. Sans réfléchir, tu vas penser de cette manière-là. Et l'autre aspect, c'est qu'on catégorise tout. On catégorise tout, on catégorise les gens, les choses, et sans se rendre compte, on catégorise Dieu de la même manière, on lui attribue des intentions, et on développe, on base notre compréhension de Dieu sur les conclusions qu'on a tirées, ça devient notre vérité, ça devient notre théologie. Et ensuite, ce qu'on fait, on lit la parole de Dieu pour confirmer ce qu'on croit déjà. C'est un exercice vraiment exigeant de lire la parole sans aucune arrière-pensée. Aucune arrière-théologie, aucune arrière-croyance, de dire qu'est-ce que la parole dit, qu'est-ce qu'elle veut vraiment dire. Parce que trop souvent, on tombe dans cet automatisme à cause de la paresse cognitive et on lit la Bible juste pour confirmer ce qu'on croit déjà. Et c'est pour ça qu'il y a tellement d'argumentations autour de toutes sortes de sujets de la Bible. Parce que quelque part, on est assis confortablement dans notre voiture neuronale, sur l'autoroute d'information de notre cerveau. La route est tellement plane que d'aller ailleurs, c'est trop compliqué. Il y a des mauvaises herbes, il y a des marais. Donc, je pense comme ça et la Bible, ben, je l'interprète à partir de ce biais, ma manière de penser. Maintenant, on catégorise tout, mais ça nous fait rater des choses. Un exemple. Dieu ne fait rarement deux choses de la même manière. Alors si, je me souviens un jour, quelqu'un qui m'a dit, « Ah, moi, je sais comment Dieu fonctionne. J'ai compris Dieu. Selon mon expérience, c'est toujours comme ça, comme ça. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est comme ça. » Je l'ai regardé, je dis, « T'es-tu sérieux? T'es pas en train de me faire une blague? T'es en train de me dire que c'est là que tu as décidé d'arrêter de grandir dans ta compréhension de Dieu? Ah, j'ai compris Dieu, moi. » C'est dangereux. Un exemple, Moïse. Devant le rocher à Horeb. La première fois, Dieu lui dit quoi? Frappe le rocher. La deuxième fois, qu'est-ce que Dieu lui dit? Parle au rocher. Lorsque David demande, est-ce que je vais aller faire la guerre contre mes ennemis? Dieu lui dit, oui, tu vas gagner, voici comment tu vas faire. La deuxième fois, la même situation revient peut-être un an, deux ans, trois ans après. Seigneur, est-ce que je vais aller combattre mes ennemis? Et Dieu lui dit, oh, cette fois-ci, tu vas les contourner. C'est les mêmes ennemis, c'est la même situation, c'est le même peuple d'Israël, la même délivrance à apporter. Et Dieu dit, non, tu ne vas pas agir de cette manière-là. La stratégie de combat était différente. Et vous savez, dans l'Église du Nouveau Testament, était en partie, en tout cas les Juifs qui en faisaient partie, restés dans ses conclusions passées concernant Dieu. Et je pense que c'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a commencé en disant quoi? Après avoir autrefois et de nombreuses reprises, au début de Hébreux 1, et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes. Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. J'aimerais qu'on regarde, on va commencer avec un passage d'Ésaïe ce matin pour comprendre là où je veux vous emmener, par rapport à ce que j'appelle les blocages qui nous empêchent de recevoir la bénédiction. Ici, Dieu dit, à travers le prophète Ésaïe, « Je vais faire une chose nouvelle, qui est déjà en germe. Ne la remarquez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans des endroits ou dans les endroits arides. » C'est intéressant, il dit ici, « Ne le remarquez-vous pas? » Et plusieurs versions, j'ai remarqué deux manières de le dire. « Ne la connaîtrez-vous pas? » Plusieurs versions de la parole et plusieurs autres versions, « Ne la remarquerez-vous pas? » Dieu dit, « Je veux faire quelque chose de nouveau. » Allez-vous être attentif? Êtes-vous attentif à ce que je désire faire? Ou bien la paresse cognitive vous a emmené dans un cadre où vous avez mis Dieu dans une boîte. C'est comme ça que Dieu agit, pas autrement. Dieu est en train de parler à son peuple ici, qui est sur le point de partir en captivité. Ésaïe a vécu, mettons 75 ans avant la déportation. Donc, il a vécu dans le siècle qui a précédé la déportation, mais pour calculer à partir d'où, juste pour vous dire, dans le siècle juste avant la déportation. Tandis que Jérémie a connu le début de la déportation. Et Ésaïe a vécu avant la déportation. Dieu est en train de parler à son peuple qui est sur le point de partir en captivité. Puis il dit, je veux vous bénir. J'ai toujours voulu vous bénir. J'ai essayé de te bénir toute ta vie. J'ai essayé de libérer ce dont tu as besoin pour ta vie. Et ici, Ésaïe s'exprime ainsi parce que le peuple d'Israël avait bloqué la bénédiction de Dieu à cause de son comportement. Le peuple d'Israël, à cause de ce comportement, le peuple d'Israël avait laissé son cœur être refroidi et le peuple d'Israël ne voyait plus Dieu comme le Dieu qui bénit, comme le Dieu qui pourvoit, comme le Dieu qui est un Dieu d'amour. Il le voyait comme un Dieu qui resterait. Ah, c'est exigeant servir Dieu. Ah, ceci. Ah, si on marche pas droit, Dieu va nous punir, ainsi de suite. Ils avaient complètement changé leur mentalité concernant Dieu et ils ont décidé d'aller vers des idoles, de se fabriquer toutes sortes d'idoles. Et aujourd'hui, on a le même problème. Dieu va vous bénir dans votre être entier. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Non seulement il a dit qu'il veut nous bénir, il dit vous serez une bénédiction. Non seulement vous serez bénis. Encore plus, on va devenir une bénédiction et tous ceux qui s'approchent de toi seront bénis parce qu'ils s'approchent de la présence de Dieu. Le croyons-nous? Dans ce texte, ici, l'état de cœur du peuple d'Israël les empêchait de recevoir la bénédiction. Et les barrières qui nous empêchaient souvent de recevoir la bénédiction, en réalité, elles ont été renversées, ces barrières-là. Et lorsque je parle des barrières qui nous empêchaient de recevoir la bénédiction, Dieu essaie, je crois qu'ici, Dieu essaie de nous faire voir ce qui nous empêchait d'expérimenter sa bénédiction, c'est plus là, c'est plus en place. Je parle de la honte qui a été réglée à la croix, je parle de notre faiblesse que Dieu va transformer en force. Je parle des erreurs du passé que nous repassons dans notre esprit constamment. Dieu a vaincu le péché, la mort, la honte qui s'y rattache. Ça, c'est réglé, ce qui nous empêchait de nous approcher de Dieu et d'être en contact avec Dieu. On ne pouvait pas aller vers Dieu, c'est Dieu qui est venu vers nous. Et Dieu s'est revêtu de la vie d'un bébé. Dieu est venu au monde à travers un bébé, à travers ce bébé Jésus, à travers une jeune femme qui a dit, « Oui, Seigneur, je suis prête à accomplir ton plan. » Marie, qui a dit, « Seigneur, on y va. » Sans être prête sans considérer le mépris que ça allait représenter. Dieu a vaincu le péché, la mort, la honte. Dieu est venu vers nous. Puis Paul dit aux Colossiens, dans Colossiens 2, verset 4, « Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait. Il l'a annulé en le clouant à la croix. » Wow! Alléluia! Ça, c'est réglé. Et plus loin, l'apôtre Paul dit dans Romains 8, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? » Et sa conclusion, c'est « Rien, absolument rien. » ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, ni la vie, ni la mort, les dominations, les anges, aucune puissance. Ce que l'apôtre Paul dit, rien de l'extérieur ne peut nous empêcher ou ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Sauf une chose, mon incrédulité. mon incrédulité, tout ce que je viens de dire est vrai. Dieu a tout accompli. Mais si tu ne crois pas que c'est vrai, bien, ce ne sera pas vrai pour toi. Et c'est là le problème. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu, sinon notre incapacité à croire dans cet amour-là, que cet amour-là est vraiment grand. Et souvent, ça vient de notre incapacité de notre cerveau à traiter trop de demandes, donc on va simplement simplifier, cataloguer, et si on ne porte pas attention, à chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on veut expliquer absolument pour se sentir à l'aise, on invente une théologie, on bricole une théorie quelconque pour dire pourquoi Dieu ne le fait pas. Et ça nous amène, à force de bâtir ce genre de théologie, ça nous amène à quoi? À une foi qui est complètement au neutre. Oh! Vous savez, la première chose que quelqu'un m'a dit lorsqu'elle m'a témoigné, c'est « Gaëtan, crois-tu dans les miracles? » Vous savez ma réponse? Absolument! Je crois dans les miracles! Ce n'est pas ce qui faisait de moi un chrétien pourtant. Oh non! Je croyais que Dieu était puissant, mais j'étais loin de lui, absolument loin. On peut le chanter à l'église, mais si tu arrives à la maison et tu ne crois pas que son amour est infiniment plus généreux que ce que tu peux imaginer et qu'il peut faire une chose nouvelle, bien, tu restes dans tes mêmes conditions. Tu restes dans ce qui était ancien, si je peux dire, parce que Dieu nous invite, je vais faire une chose nouvelle. Si on continue, maintenant, voici ce que dit l'Éternel. On va regarder quelques autres passages du chapitre 43. C'est vraiment intéressant. Le chapitre 43 nous présente vraiment un portrait de l'amour de Dieu et du salut qu'il veut accomplir. Et c'est intéressant parce que Ésaïe, vous savez, les commentateurs, comment ils surnomment Ésaïe? Plusieurs commentateurs l'ont surnommé le prophète aux yeux perçants comme l'aigle. Le prophète qui a des yeux d'aigle. Vous savez pourquoi? Parce qu'Ésaïe prophétisait des choses qu'il ne vivait pas et qu'il ne vivrait même pas assez longtemps pour les voir arriver. Vous vous imaginez, je suis en train de vous prêcher pour quelque chose que vous aurez besoin d'utiliser dans votre vie dans 30 ans. C'est pour ça qu'il faut prendre des notes. Pour que dans 4 ans, tu dis, hey, c'est quoi déjà que le pasteur avait dit? Aïe, 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 là je suis dans la situation. Je n'avais pas saisi au moment. C'est important de prendre des notes. C'est important de rester ouvert à ce que Dieu désire faire. Donc, Ésaïe prophétisait des choses que lui-même n'allait pas vivre assez longtemps pour les voir arriver. Il prêchait des messages dont les gens auraient besoin pour quelque chose qu'ils n'étaient même pas encore en train de vivre. Dieu est en train de télécharger ce que le peuple d'Israël aurait besoin plus tard. Et de ces prophéties-là, on les voit s'accomplir sur jusqu'à 500 ans. Imaginez, je suis en train de vous parler aujourd'hui et ça va profiter à quelqu'un dans 500 ans. Je ne suis pas capable de l'imaginer. Wow! Mais Ésaïe a eu cette capacité-là de se laisser utiliser par Dieu et d'apporter un message dans ce sens-là. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné Israël, n'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par mon nom, ou par ton nom plutôt, et tu m'appartient. Wow! C'est vraiment intéressant de voir comment déjà au temps d'Ésaïe, Ésaïe proclame des paroles qui ne sont pas encore arrivées, mais qui représentent réellement qui est Dieu, ce qu'il désire communiquer à son peuple. Je me souviens, lorsque je suis arrivé comme pasteur à Bécomo, on a loué une maison, on est arrivé à l'automne, donc ce n'était pas le temps d'acheter ou quoi que ce soit, on a loué une maison, et le propriétaire était un jeune homme qui allait se marier l'été suivant et qui allait aménager le sous-sol de la maison en appartement pour y habiter. Moi, j'habitais au rez-de-chaussée. Donc, il venait souvent et son beau-père était plombier. Et je me souviens un jour, un samedi, son beau-père était venu pour faire la plomberie au sous-sol, pour aménager salle de bain, cuisine, etc., parce que ce n'était pas en place. Et je me souviens, j'ai dit, hey, je vais aller vous aider. Et j'étais là à les aider et écoute, bénéficier de l'expertise d'un plombier professionnel. Pour moi, c'était waouh, quelle chance. Et à un moment donné, il me dit, mais pourquoi tu fais ça? Je l'ai regardé, j'ai dit, ah, qui sait, un jour, ça pourrait m'être utile. J'avais aucune idée de ce que j'étais en train de dire. Mais ça m'a été réellement utile, à bien des reprises. Et de la même manière, quelquefois, on peut prêcher des choses. Et on se dit, oh non, non, c'est pas pour moi. Ah, oh, ça, c'est pour mon voisin. Ah, oh, ça, c'est pour ma femme. Ah, oh, non, ça, c'est pour mon mari. Hey, Marie, t'es mieux d'écouter, hein? Et on ne le prend pas pour nous. Portons attention, Dieu désire télécharger tout ce qu'on a besoin pour vraiment grandir dans sa présence. Donc, c'est pour ça qu'on prend des notes. Donc, tu crois que tu n'en as pas besoin? Mais Dieu te répond, sois attentif, tu vas en avoir besoin, un jour. Et Dieu savait que le peuple d'Israël se retrouvait en captivité, se retrouverait en captivité. Et il veut tout de suite les encourager et clarifier qui il est. Qu'il est ce Dieu-là, ce Dieu d'amour, qui a créé Jacob, qui a façonné Israël, et qui est celui qui veut le racheter, qui est celui qui l'appelle par son nom et qui lui appartient. Dieu se prépare à envoyer le peuple d'Israël en déportation et dit, t'es mon peuple chéri pourtant. Dieu désire qu'il revienne à eux. Et on continue. Et il continue en disant, si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je ne crois pas qu'on a à l'appliquer à la lettre, à devenir des gens qui marchent sur le feu, mais je crois qu'il y a un sens à saisir ici, vraiment important. La bénédiction n'est pas le synonyme qu'il n'y a aucune épreuve, aucun temps difficile qui va nous arriver. C'est ce qu'on voit ici. Dieu dit, si tu traverses l'eau, moi-même, je vais être dans l'eau avec toi. C'est ce qu'il est en train de dire. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'en toute situation, Dieu ne nous abandonnera jamais. Jamais. Il va toujours être avec nous. Le peuple d'Israël allait se retrouver en captivité, mais ce n'était pas la captivité qui était si difficile. C'était l'état de leur cœur qui était desséché, qui n'avait pas pris attention. Et Isaïe leur fournit le lunch qu'ils auront besoin en route. Lorsqu'ils seront en captivité, il leur fournit les paroles d'encouragement, les paroles de vérité qui ont besoin d'ancrer dans leur cœur. Et non ce qu'ils vont inventer sur Dieu par rapport à leur expérience. « Ah, c'est ça, Dieu nous punit, on est en captivité, c'est ceci, c'est cela. » Ils étaient bien à Babylone, physiquement. Même Jérémie leur a dit, « Écoutez, relevez la tête. Priez pour la ville où vous êtes, priez pour le pays où vous êtes, parce que votre bonheur dépend du leur. » Relevez la tête, arrêtez de regarder les choses de cette manière-là. Donc, Ésaïe leur fournit le lunch lorsqu'ils en auront besoin plus tard. Alors, il leur rappelle son amour. On voit le verset 15, j'ai mis deux versets ensemble, 15 et 25, toujours dans Ésaïe 43. « Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. C'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Wow! Moi qui pensais que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu de la punition, je vois beaucoup plus souvent des paroles de bénédiction, des paroles d'amour, des paroles d'encouragement pour amener son peuple à revenir à lui. Réalisez-vous, un peuple désobéissant est en relation avec un Dieu saint malgré sa désobéissance. C'est ce qu'on voit dans ce passage-là ici. Votre saint, votre roi. Dieu n'a pas dit, oh, je me sépare de vous, vous êtes toute une gang de tout croche. C'est pas ce qu'il a dit. Je suis votre roi, je suis votre saint, votre roi. Je vous appartiens, je suis votre Dieu. Et c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même, et ainsi de suite. Donc, si Dieu parle d'une telle manière, avant même que Jésus soit venu, comment on devrait parler de notre relation avec Dieu aujourd'hui? Trop souvent, notre incapacité à saisir l'amour de Dieu nous empêche de la saisir. Déjà dans l'Ancien Testament, déjà Isaïe, ce prophète aux yeux d'aigle qui voit au loin, qui prophétise des choses que lui-même ne vivra pas assez longtemps pour les voir arriver. Il les prophétise quand même avec clarté qui est Dieu pour le peuple d'Israël, pour lorsqu'ils en auront besoin, ils puissent revenir à Dieu avec la bonne compréhension de qui est Dieu. Et comment nous, on devrait parler de notre relation avec Dieu maintenant qu'on est de l'autre côté de la croix. Wow! Je peux dire, je suis peut-être brisé, mais j'appartiens au Dieu qui est saint, au Dieu qui est un roi, au Dieu qui pardonne, au Dieu qui m'aime infiniment plus. Peut-être je ne suis pas encore rendu où Dieu veut m'emmener dans ma destinée, mais n'empêche, j'appartiens au Dieu, à un Dieu d'amour, un Dieu qui est saint, malgré mes imperfections, et qu'on a de la difficulté avec ça quelquefois. Donc, Dieu savait qu'Israël allait le rejeter, mais il avait promis à Abraham qu'il bénirait sa postérité, et que toute la terre serait bénie en son nom. Et il a continué de le faire. Et lorsqu'on parle que toute la terre sera bénie en son nom, réalisez, ce n'est pas un seul pays, ce n'est pas juste une région, ce n'est pas une province, ce n'est pas juste un code postal, ce n'est pas juste le 514 ou bien le 450, ce n'est pas juste une zone téléphonique, ce n'est pas juste une ville. Toute la terre, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et essentiellement, c'est ça le message de l'Évangile. Mais voici un problème. Le problème, c'était leur incrédulité envers Dieu. Et ça ressemble quelquefois à notre même problème. C'est drôle comment la bénédiction ou comment le problème flirte avec la bénédiction. Dieu nous bénit, mais à quelque part, il y a un processus à travers lequel on doit passer. Donc ici, c'était leur incrédulité. Donc Dieu leur rappelle ce qu'il a déjà accompli. Et c'est ce qu'on voit dans le passage suivant. Tout à l'heure, on a lu, je crois, le verset 18-19, dans ce coin-là. Ici, juste avant, voici ce que Dieu dit. « Voici ce que dit l'Éternel, celui qui ouvre un chemin dans la mer et un passage dans l'eau puissante, qui fait partir en campagne des chars et des chevaux, une armée de puissants guerriers. Ils se couchent tous ensemble pour ne plus se relever. Ils sont anéantis, éteints comme une mèche. » De qui il parlait? De qui Dieu parle ici, d'après vous? Pharaon, l'armée d'Égypte. Exactement. Et Dieu reparle des miracles du passé. Vous savez quoi? Ça, c'était le chant préféré. Il y a eu des cantiques qui ont été composés là-dessus. Et c'était l'identité nationale, ce qui faisait vibrer le cœur des Israélites. Cette délivrance d'Égypte, ça fait partie du cœur, des valeurs du peuple juif. Ça faisait partie de qui ils étaient. Et c'était leur chant préféré. Et j'aimerais vous faire écouter un chant tout à l'heure. Tu peux monter le volume, puis quand ça va jouer, ça va partir. Il y a un chant qui me fait penser à ça en réalité qu'on va écouter. Mais ce qu'on voit, en reparlant de ce sujet-là, Dieu voulait rappeler à Israël toutes les victoires qu'il leur avait accordées. Vous savez, ça prend l'entêtement d'un pharaon pour voir les displays d'Égypte, pour voir la traversée de la mer rouge. Tu t'imagines la traversée de la mer rouge, toute l'eau qui est là au garde-vous pour laisser passer le peuple d'Israël. Wow! Imaginez cette eau-là comme si c'était des gens qui font une haie d'honneur pour que ce peuple qui était esclave sorte en toute liberté. Wow! C'était merveilleux. La victoire sur l'armée d'Égypte sans avoir à combattre. Et ici, c'est pour ça que Isaïe parle d'une campagne de chars, de chevaux, d'une armée et de puissants guerriers. Ils vont tous se coucher sans jamais se relever. Et ici, Isaïe ramène au peuple d'Israël ce souvenir-là des miracles glorieux qui avaient été accomplis dans le passé. Et Dieu veut nous rappeler que la victoire et la liberté demandent la persévérance et de la foi. Parce qu'on voit que le peuple d'Israël a dû persévérer à travers tout ce conflit-là qui a été engendré lorsque Moïse est allé voir le peuple, ou plutôt Pharaon, pour lui dire « Laisse aller mon peuple. » Combien de souffrances ont originé de cette demande-là, au point où les gens ont voulu lapider Moïse à un moment donné. Écoute, tu nous fais souffrir. Avec tes belles paroles, tu es en train de mettre Pharaon en colère, puis c'est nous autres qui subissons la colère de Pharaon. Et Dieu veut nous rappeler que la victoire, elle demande la persévérance. Donc, les situations ont besoin de sembler impossibles pour que Dieu se révèle comme étant le Dieu de l'impossible. On aimerait donc pas souffrir, hein? On aimerait donc qu'il n'y ait pas de problème. Mais il faut qu'une situation apparaisse impossible pour qu'on puisse réaliser que Dieu est le Dieu de l'impossible. Hey, quand j'y pense, c'est comme, wow! Et quelquefois, Lazare a besoin d'attendre quelques jours dans le tombeau pour que Jésus puisse révéler qu'il est la résurrection et la vie. Et on peut l'appliquer à nos situations. Quelquefois, on vit des situations, on dit, « Seigneur, où est-ce que tu es? » J'aimerais vous faire écouter ce chant-là. En premier, en anglais, mais juste le refrain. Ça va vous donner une idée. On va voir en même temps les paroles. Et il y a son pendant aussi que j'ai pu trouver en français. On va l'écouter. « Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes. Et je le crois. » À nouveau, tu vas le faire. Dans le néant, il a tracé une voie.
Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes. Et je le crois.
Dieu veut le faire à nouveau.
Tu le feras.
Alléluia. Imagine, ça c'était le chant d'Israël. Seigneur, tu as ouvert la voie. Là où il n'y avait rien, tu as ouvert une voie. Lorsque la mer les empêchait d'entrer, Dieu a ouvert cette voie-là et il va le faire encore. Et vraiment, c'est ce que le peuple d'Israël, c'est ce qui était vraiment sensible à leur cœur. L'Éternel, celui qui ouvre un chemin dans la mer, un passage dans l'eau puissante. Et c'est dans le verset 16 et 17 ensemble où on a le cœur de ce passage-là. Dieu veut t'ouvrir une voie, qu'importe ta situation. Combien d'entre vous avez-vous vu Dieu agir alors que vous aviez perdu espoir? Levez la main. Vous avez vu Dieu agir dans une situation. Alléluia. Tantôt, on a parlé de Guy. Et Guy est un homme béni aujourd'hui. Allez lui poser des questions si vous voulez savoir. Mais Guy m'a invité pour un déjeuner il y a peut-être un an et demi. À quelque part dans un petit restaurant. Et Guy vivait des difficultés à trouver un emploi, ainsi de suite. Je vais prendre un déjeuner avec Guy. Il m'invite dans un restaurant là-bas pour réaliser quand c'est le temps de payer que le resto prend pas les cartes. Et là, je réalise, j'ai même pas un sou. Donc, je suis allé prendre un déjeuner avec quelqu'un qui souffre parce qu'il n'a pas d'emploi. Il est obligé de payer mon déjeuner. Mais de cette première rencontre, j'ai vu comment Dieu a béni Guy, comment Dieu a été conduit dans sa foi à grandir et à refaire confiance en Dieu et à voir Dieu accomplir des miracles. Dieu ouvre la voie. Et Dieu désire ouvrir la voie, qu'importe notre situation. Et quand le peuple d'Israël a entendu ces paroles, il savait qu'ils n'étaient plus esclaves. Ils se souvenaient de cette histoire-là d'esclavage où ils ont été libérés. Et ils devaient se rappeler la relation privilégiée qu'ils avaient avec Dieu parce qu'ils devaient être en mesure de faire face aux situations qui les attendaient et surtout revenir à Dieu de tout leur cœur. Mes yeux ont vu bouger les montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces la voie et je le crois. À nouveau tu le feras et Dieu veut le faire à nouveau. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu rappelle tout ce qu'il a accompli. Puis, il leur dit, ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Hein? Quoi? Ce qu'on vient de lire, c'est les versets qui précèdent ce verset-là, versets 16 et 17. Et dans un certain sens, on peut comprendre ce verset de la manière suivante. On ne vit plus dans le regret de nos erreurs passées, dans la honte, dans le péché. Paul a dit, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Wow! C'est facile de passer par-dessus les erreurs d'il y a 20 ans, d'il y a 10 ans, d'il y a 3 ans. Mais des fois, on a quand même de la difficulté à passer par-dessus de nos erreurs d'il y a 3 minutes. Les erreurs qu'on a commises ce matin. On oublie qu'il a pourvu à la croix. Quelle est la différence entre le sacrifice qui a été versé pour t'apporter le salut le jour où tu l'as reçu et le sacrifice que ça a pris pour te pardonner de l'erreur que tu as commise ce matin? Est-ce que c'est un sacrifice différent? C'est le même sacrifice. Il a été accompli quand? Combien d'années à peu près? 2000 ans. C'est déjà accompli dans le passé. Et souvent, on a, comme moi, j'ai eu de la facilité à donner ma vie au Seigneur, mais ensuite, mes erreurs, c'est « Ah! Est-ce que Dieu va me pardonner? » J'étais en train encore de bricoler quelque chose. Ma compréhension de Dieu. Le même sacrifice a pourvu pour marcher dans la foi, dans la sainteté et passer par-dessus nos erreurs. Nous sommes humains, il y aura toujours... Là où il y a des hommes, il y a de l'hommerie. Ça ne se dit pas aussi bien au féminin. S'il y a des femmes, il y a de la femmerie. Ça ne se dit pas bien. Donc, on va rester avec là où il y a des hommes, il y a de l'hommerie. Vous avez une idée de ce que je veux dire? Là où il y a des êtres humains, il y aura de tout ce qui peut arriver dans le comportement d'un être humain. Donc, il n'y a pas de différence entre le sacrifice qui a été payé à la croix pour notre salut et le sacrifice qui a déjà été payé à la croix pour qu'on puisse marcher dans la vie, dans la sainteté et qu'on puisse marcher pardonné jour après jour. Lorsqu'on réalise une erreur, « Seigneur, pardonne-moi », et on va de l'avant, on retourne dans les bras de Dieu. Ce qui nous empêche de goûter la bénédiction, c'est notre incrédulité à recevoir son amour. C'est là que ça devient difficile. C'est facile pour nos péchés, on dit « OK, oublie ça, t'es pardonné, va de l'avant ». Ça, c'est facile. On aimerait donc ça, hein, si les émetteurs de cartes de crédit avaient la même miséricorde. Hein? On oublie ta dette! Oh, ça, ce serait le fun! Mais en tout cas, on l'a au moins pour le péché. Ça, c'est merveilleux. Pour les histoires de cartes de crédit, on a des cliniques financières qui s'en viennent bientôt en mars. Ça s'en vient. On est en train de travailler là-dessus. Maintenant, ici dans le texte, ce qui est différent, c'est qu'Isaïe n'a pas parlé des erreurs passées d'Israël, il a parlé des miracles de Dieu. Et là, il leur dit, « OK, je veux vous rappeler qui est Dieu. Maintenant, oubliez ça. Ne pensez plus aux premiers événements. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle. » Wow! Donc, Isaïe avait souligné les miracles de Dieu. Ensuite, il dit, « Oublie. » Je pensais que, vous savez, jusqu'à maintenant, souvent on pense que ce qui nous empêche d'être bénis, ah, c'est le diable. Mais ce qui m'empêche, c'est pas le diable. C'est que ce que Dieu a accompli dans une saison, je veux qu'il reproduise de la même manière dans une nouvelle saison. Alors que Dieu veut m'emmener plus loin. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ou quand vous êtes venu au Seigneur, wow, tu ouvrais la Bible n'importe où, le Seigneur te parlait. Et c'était formidable. Et là, tu ouvres la Bible et tu tombes sur toutes sortes de passages déprimants. Et tu dis, Seigneur, t'es où? Comme si le Seigneur ne te parle plus. Oui, le Seigneur te parle encore. Mais c'est qu'au début, ton oreille n'était pas habituée, donc le Seigneur te criait dans les oreilles. Mais là, à mesure que tu dois apprendre à marcher et entendre sa voix, le Seigneur va parler doucement, il va continuer, mais il va chuchoter. Et à toi d'être assez près de lui et de croire, d'avoir confiance dans son amour qui te veut dans sa présence. Qu'il n'y a rien qui t'empêche d'être dans sa présence, de pouvoir communiquer avec lui. Et Dieu parle encore autant. Dieu n'a pas arrêté de parler. Alors, si toi, tu as trouvé comme conclusion, parce que ton cerveau est un peu paresseux d'une manière cognitive, et puis il a trouvé un raccourci, ah ben c'est parce que Dieu, il ne veut plus me parler. Je suis désolé. Pout, on change ça, et on remet notre foi à honneur du Seigneur, parle-moi à nouveau. Continue de me parler. Donc, trop souvent, ici, là, c'est comme si Dieu veut dire, ne restez pas stocké sur ou collé sur les miracles passés qui pourraient vous empêcher d'avancer. Ne vous arrêtez pas aux miracles passés. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais nous, on vit quand? Aujourd'hui. Alors, on doit vivre notre relation avec Dieu aujourd'hui. Le Dieu de puissance, le Dieu de miracles, le Dieu d'amour, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas de la théorie du passé, ce n'est pas les miracles du passé. Il veut le refaire encore. Il veut démontrer encore son amour. Son amour est infiniment plus généreux que ce que tu peux croire, ce que tu es capable de penser. Donc, si vous vous souvenez de ce qu'on a dit au début, la paresse cognitive, on se fige dans une manière de penser, ou bien on catégorise tous les gens, puis on tire des conclusions sur Dieu par rapport à une expérience quelconque, et ça devient notre vérité, et ça nous empêche d'avancer. On doit se détourner du passé pour porter notre attention au miracle qui est en train de se développer. Dieu désire accomplir encore aujourd'hui. On se souvient de ce qu'il a fait, mais on peut oublier comment il l'a fait, si je peux le dire de cette manière-là. On doit se souvenir de ce que Dieu a fait. Je ne suis pas en train de dire que les témoignages ne sont pas importants, au contraire. Mais Dieu désire le faire en restant Dieu. Le Dieu de l'impossible, le Dieu infini, le Dieu tout-puissant. Et on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. Donc, ne restons pas dans le passé. Le peuple d'Israël attendait à ce qu'un Moïse allait encore les délivrer de leur captivité, probablement, lorsqu'ils ont été en captivité. Même au temps de Jésus, il y a eu le même problème. Au temps de Jésus, qu'est-ce que beaucoup attendaient? Un sauveur qui va les délivrer des Romains. Un autre Moïse. Et ils regardaient Jésus, ils essayaient de le fitter dans ce moule-là, mais fitter un rond dans un carré, ça ne marche pas. Et il y a des gens qui n'ont pas reconnu qui était Jésus. Ils n'ont pas reconnu ce que Dieu était en train d'accomplir parce qu'ils étaient pris dans le passé, dans leur interprétation de comment Dieu doit le faire. Et des fois, ça se représente dans notre manière de prier. Lorsqu'on dit à Dieu comment il doit le faire. Seigneur, je m'attends à ce que tu agisses comme ça, comme ça, comme ça. Ça peut représenter que peut-être des fois on est pris encore dans une manière de voir Dieu et qu'on dit « Seigneur, surprends-moi. » plutôt, surprends-moi. Donc, au temps de Jésus, ça a été pareil. C'est ce qui a fait que beaucoup n'ont pas reconnu Jésus. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient attachés au miracle passé. Et ce matin, c'est la même chose. On a le même danger. Où sont tes yeux? Sur le passé ou bien ce qu'il veut faire maintenant? Ils pensaient que Jésus, le peuple à l'époque de Jésus, ils pensaient que Jésus allait les délivrer des Romains. Jésus était venu pour les délivrer de la captivité du péché. Et il l'a fait, il a accompli sa mission, alors qu'ils ne l'ont pas reconnu parce qu'ils regardaient à autre chose. Si on relit ce passage-là, ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Elle est en train de pousser, de se développer. Ne la remarquerez-vous pas? Je ne suis pas en train de dire qu'on doit oublier ce que Dieu a fait, mais on doit éviter de mettre Dieu dans une boîte puis devenir myope à ce qu'il veut faire maintenant. On parle dans ce sujet-là de que Dieu veut faire infiniment plus. Et j'avais parlé au début de la série que comment recevoir ce qu'on n'est même pas capable de comprendre? En gardant un cœur ouvert et une nouvelle manière de penser. En se disant, Seigneur, je ne vais jamais dire, j'ai tout compris de toi. Seigneur, ce que tu as fait, c'était merveilleux. Et Seigneur, je m'attends à ce que tu sois le même aujourd'hui, le même Dieu puissant, surprends-moi aujourd'hui. Et c'est ce que Dieu veut faire, encore aujourd'hui. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois, à nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces la voie et je le crois, à nouveau tu le feras. Dieu est celui qui ouvre la voie. Et je vais inviter le groupe de musique à s'avancer tout de suite, le groupe de louanges. J'aimerais qu'on puisse chanter ce dernier chant-là qu'on a chanté tout à l'heure, encore une fois, en terminant tout à l'heure. Dieu est celui qui ouvre la voie, mais ça ne veut pas dire qu'il va le faire de la même manière à chaque fois. Si nous voulons être prêts à recevoir l'infiniment plus, on a besoin de dire, Seigneur, je ne veux pas rester dans cet algorithme où mon cerveau m'a amené à catégoriser toutes sortes de choses. Seigneur, je vais laisser la place au mystère. Seigneur, je vais laisser la place à une confiance en toi, une confiance dans ce que tu es plus grand que ce que je peux te demander, une confiance dans ce que tu es plus grand que la situation dans laquelle je suis. Seigneur, tu es plus grand que l'impossibilité dans laquelle je suis, et ainsi de suite. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Vous savez, à la mer Rouge, la barrière, l'empêchement à leur liberté, c'était la mer, c'était l'eau. N'est-ce pas? Mais lorsque le peuple s'est retrouvé dans le désert, c'était quoi son plus grand besoin? C'était de l'eau, et non le plus grand obstacle. Et je trouve ça intéressant parce que, en même temps que Dieu mentionne les miracles incroyables qu'il a fait, en même temps, on voit quelque chose de très subtil qui est là, qui est présent. Dieu a béni dans le désert avec de l'eau, alors que ça a été la barrière auparavant. Dieu a béni avec ce qui était auparavant un problème. La mer Rouge était le problème, cette eau-là, cette masse d'eau était le problème pour les empêcher de fuir. L'armée d'Égypte arrivait, ce problème-là s'est ouvert et ensuite Dieu bénit et il s'est dit, ne le remarquerez-vous pas, je vais faire quelque chose de nouveau, je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Alléluia! Quel a été ton plus grand obstacle? Quel est ton plus grand obstacle? Quel a été ton plus grand obstacle? Dieu veut le transformer en victoire. Dieu veut le transformer en avancement spirituel. Et ce message-là ici est tellement puissant, je crois, que si on le comprend, bien on va s'apercevoir que l'obstacle à la bénédiction, ce n'est pas l'ennemi. L'obstacle à ma bénédiction, ce n'est pas les circonstances. Ce n'est pas les autres. Ce n'est pas mon épouse. Ce n'est pas mon mari. Ce n'est pas mes enfants. L'obstacle à ma bénédiction, ce n'est pas mon patron. Ce n'est pas un manque quelconque. Ce n'est pas celui qui me doit de l'argent et qui ne m'a pas encore remboursé. Ce n'est pas l'obstacle à ma bénédiction. Ce n'est pas mon âge. Et on pourrait en mettre. C'est mon incapacité à croire que Dieu veut faire une chose nouvelle. C'est mon incapacité à croire que son amour surpasse toutes mes faiblesses. Et je termine avec ça. Ne le remarquez-vous pas? Es-tu attentif à ce que Dieu veut maintenant faire? Je trouve intéressant. Il veut faire quelque chose de nouveau, puis il dit, est-ce que vous êtes attentif? Parce que vous allez le rater. C'est ce que Dieu est en train de dire. Cette chose-là est en train de se développer. Elle n'est peut-être pas en train d'être vue physiquement de nos yeux, mais cette chose-là est déjà dans le cœur de Dieu en train de se développer. La bénédiction de Dieu est dans le cœur de Dieu. Sa bénédiction pour ta vie, elle est là dans son cœur. Et à quelque part, Dieu veut accomplir les choses, mais à quelque part, on a besoin, nous, de permettre à cet amour-là de croire que son amour infini veut vraiment faire la différence dans notre vie. Croire que je mérite l'amour de Dieu, qui désire me bénir. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas. Dieu veut tracer un chemin là où tu crois que c'est désertique. Dieu veut apporter la clarté dans ta vie. Dieu veut apporter la solution à ce que tu sembles être, tu sembles percevoir plutôt comme un problème. Et il va mettre des fleuves dans des endroits arides. Là où tu dis, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de ceci, j'ai pas assez de cela. Dieu veut faire couler des fleuves. Le fleuve de sa bénédiction dans ces endroits-là de notre vie. J'aimerais qu'on fasse quelque chose. J'aimerais qu'on puisse chanter ce chant de victoire, mais ensuite, j'aimerais qu'on puisse juste prendre un petit moment pour prier. Donc, ne partez pas tout de suite. Ce chant-là qui est « Le Dieu de victoire habite en moi ». On l'a chanté tout à l'heure et je crois que ce chant-là mérite d'être chanté encore une fois. « Le Dieu de victoire habite en moi ». On va se lever debout. Prenons un temps pour le chanter. Et réalise ce Dieu de victoire qui veut nous conduire dans la victoire, bien, il habite en moi. Il a décidé de faire sa demeure en moi. Ensuite, je veux prier pour ceux qui vivaient des difficultés. On va prendre un temps de prière. Vas-y, Isabelle.